Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous avez pu constater, je n'ai pas pu être présente lors de la dernière conférence. Non seulement je n'ai pas pu être présente, mais en plus je n'ai pas eu, comme vous, si vous avez fait l'essai, l'occasion de réentendre l'enregistrement de la conférence de Dominique Holvoet. Je peux vous dire que depuis cet après-midi, les deux conférences, la première et la seconde, sont en ligne sur le site de la radio de l'université, UFM, et que vous pouvez, dès à présent, en rentrant ce soir, les télécharger si vous voulez. Alors, je me suis livrée à un exercice un peu différent de, au fond, ce que je faisais l'an passé, et je me suis dit que, puisque je n'étais pas là, puisque je n'ai pas entendu Dominique Holvoet, j'allais repartir du texte de ces deux chapitres qu'il a parcouru avec vous la fois passée, Dasding 1 et Dasding 2, et essayer d'en sortir, au fond, ce qui me semblait être les éléments principaux dans ma lecture personnelle, ce qui, j'espère, fera lien avec ce que Dominique Holvoet a dit la dernière fois. Et je me suis fixé un quart d'heure pour le faire, donc si je n'arrive pas au bout de ce que j'ai noté, je m'arrêterai et je laisserai la parole à notre conférencière. Donc, dans ces deux chapitres, et à commencer par le premier, la première distinction que Lacan vient pointer, c'est qu'au fond, en français, pour dire la chose, nous n'avons qu'un mot, alors qu'en allemand, il y en a deux, Das Ding et Sache. Alors, il fait le lien dans le texte de Lentwurf avec ce que Freud nomme la représentation des choses, les Sachvorstellung, et les représentations de mots, les Wortvorstellung. Et il dit que classiquement, on classe les premières du côté inconscient et les deuxièmes du côté conscient, les représentations de mots. Mais qu'au fond, le refoulement, nous dit-il, opère aussi sur le signifiant, donc pas uniquement du côté des représentations de choses. Alors, il nous dit qu'au fond, finalement, la chose et le mot, Sach et Wort, sont liés, et que le Das Ding, c'est autre chose, c'est ailleurs. Pour distinguer ces deux registres de représentation de choses, représentation de mots, inconscient, préconscient, il fait appel aussi au principe de plaisir et principe de réalité. Et il se demande si, au fond, ils sont séparés ou s'ils fonctionnent ensemble, d'une certaine façon. Et il nous dit que le principe de plaisir... que dans le principe de plaisir, le processus de pensée vient à la conscience uniquement de par le fait qu'il y a des paroles. Et les idées qui nous parviennent à notre conscience s'agencent aussi par la parole. C'est-à-dire que ça participe également au champ de l'inconscient, mais qu'il y a un maintien à la réalité, à un accès à la réalité par le fait que ça advient à la parole. Et que ce qui permet que ça advienne à la parole, au fond, ce qu'on en perçoit, c'est tout un mouvement inconscient des représentations. Donc ces fameuses Vorstellung dont Freud parle, ça se déplace de Vorstellung en Vorstellung, de représentation en représentation, et à un moment, quelque chose advient sous forme d'une pensée, au conscient. C'est ainsi qu'il nous dit, Lacan, que toute la théorie de la mémoire de Freud tourne autour, et il insiste sur ce terme, des inscriptions, en allemand, les Niederschriften, quelque chose qui fait signe, qui est de l'ordre de l'écriture. Et ce quelque chose qui fait signe, finalement, va passer de l'inconscient le plus archaïque, nous dit-il, vers notre système conscient, en passant par le préconscient. J'ai repris une petite phrase que je trouvais parlante. Il dit « C'est pour autant que la structure signifiante s'interpose entre la perception et la conscience que l'inconscient intervient. » Donc pas d'intervention d'inconscient s'il n'y a quelque chose de l'ordre d'une structure signifiante. Il revient à la question de Das Ding, la chose, qui est perçue comme étrangère. Quelque chose autour de quoi s'oriente le cheminement du sujet par rapport à son désir, nous dit-il. C'est cela, Das Ding. C'est un objet qui est perdu, et en tant qu'il est perdu, il ne peut jamais être retrouvé. Cet objet-là, Das Ding, en tant qu'autre absolu du sujet, il lui est autre puisqu'il lui est étranger, il s'agit de le retrouver sans jamais y parvenir. Il parle ainsi, il fait une petite digression sur l'accès hystérique ou bien ce qu'il en est chez l'obsessionnel ou chez le paranoïaque, au niveau voilà, de comment ces décharges, ces pulsions, ces quantités d'énergie sont présentes au fond, se déploient. Das Ding, nous dit Lacan, c'est vraiment ce qu'on peut considérer d'une part, au fond, à deux versants. C'est ce qu'on peut considérer d'une part comme le hors signifié, une première assise, une toute première assise de l'orientation subjective avant même qu'il y ait eu refoulement chez le sujet. Mais d'un autre côté, c'est ce qui revient par après sous forme de la réalité qui commande et qui ordonne, c'est-à-dire sous forme de ce que nous présente la science, le champ des connaissances. Il insiste dans le deuxième chapitre, donc le Das Ding 2, sur le réseau des représentations, sur le réseau des Vorstellungen, qui se tissent autour de cette chose perdue, autour de Das Ding, et qu'il s'agit de retrouver. Et cela est réglé, nous dit-il, par le principe de plaisir. Cela mobilise une quantité d'excitation entre le plaisir et le déplaisir. Y a-t-il une limite à cette mobilisation, au fond, se demande-t-il. Eh bien, il nous dit, Lacan, que oui, avec Freud, elle a un nom, et que cette possibilité d'éparpillement de cette quantité de Vorstellung, donc de représentation, elle peut soit se diriger vers des idées, et quand ce n'est pas possible, donc ce qui survient à la conscience sous forme d'idées, et quand ce n'est pas possible, c'est-à-dire quand le sujet ne peut avoir ni recours à l'évitement par rapport à ces quantités d'excitation, des représentations, ni à la fuite ou au mouvement, eh bien une des limites peut être, par exemple, la douleur éprouvée. Donc, les Vorstellungen, et c'est là que Freud apporte finalement un fameux décalage par rapport à ce qui avait cours à son époque, donc ces représentations, auparavant en philosophie et depuis Aristote, elles étaient toujours liées à la théorie de la connaissance. Mais Freud, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il les déplace, ces représentations, entre d'une part la perception et la conscience, d'autre part, faisant des pensées un processus inconscient. Donc ce qui était de l'ordre de la connaissance en philosophie devient un processus inconscient chez Freud. Les représentations sont déjà articulées selon un processus signifiant. Lacan rappelle la métaphore, la métonymie. Et donc elles ne sont présentes dans notre conscience que parce qu'elles s'articulent sur le principe d'une chaîne signifiante. Mais la chose, Das Ding, n'est pas au niveau des représentations, elle est complètement étrangère à ces représentations. C'est ce que nous dit Lacan. Il en vient donc au principe de réalité et nous rappelle les lois, la loi morale et particulièrement celle des 10 commandements. Pour dire que toutes ces lois morales, finalement, peuvent se résumer en une seule, la plus fondamentale, qui est celle de l'interdit de l'inceste. Il évoque Lévi-Strauss en disant que, finalement, avec tout ce qu'il a pu apporter, on peut quand même le rapporter à cet interdit principal de l'inceste. Et même, il insiste plus particulièrement de l'inceste mère-fils. Alors, il nous dit aussi que ces commandements, finalement, pourrait s'appeler autrement et pourrait être énoncé sous forme de, eh bien finalement, ce sont des lois de la parole. Et nous montre, et ça on en parlera peut-être tout à l'heure, en tout cas il esquisse finalement la question de Kant, qu'il ne s'agit absolument pas de ce qu'on appelle en philosophie le souverain bien. Voilà, j'ai essayé de vous donner les principaux éléments de ma lecture des deux chapitres. J'espère que ça fait écho à ce que Dominique Holvoet aura pu vous en dire la fois passée. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Véronique Mariage, qui est psychanalyste à Tournai, qui est responsable thérapeutique au Courtil à l'ERS Nord, et qui va nous parler aujourd'hui des chapitres 6 à 8. Je vous passe la parole, Véronique.
7 à 8. C'était déjà bien assez, 7 à 8. Alors, bien, on va aborder... peut-être ça va fort, non? Non? Bon. Non, il faut que je m'habitue, alors, à l'amplification de ma voix dans cette salle. Voilà, en tout cas, d'abord, bonsoir à tous. Et pour aborder, donc, ces deux chapitres... de ce séminaire sur l'éthique, ben je dirais que ma façon de faire a été de les lire plusieurs fois et je n'ai pas pu sortir du texte de Lacan. C'est-à-dire d'abord j'ai essayé d'y entrer. Et donc en reprendre quelques fils de ces deux chapitres. Parce que je pense qu'ils sont extrêmement importants. Et quand j'entends ce que Anne vient d'amener sur Dasding, je pense vraiment que dans ces deux chapitres, on fait un pas de plus sur la question de ce que c'est que la chose, justement. C'est justement ce qui est au-delà de ce que... dans ces chapitres précédents que j'ai survolés parce que j'ai pas été tout lire, disons que justement Lacan tente de sortir de la dimension signifiante de la chose. C'est le cas de le dire. Et donc on entrevoit quelque chose d'un grand concept qui, je pense, apparaîtra plus tard et qui est, en somme, le concept de jouissance. Et donc, je pense que Philippe a dû introduire cela dans son introduction au séminaire. Et dans ce temps de l'enseignement de Lacan, il a fallu que Lacan, d'abord, détache vraiment la question de la jouissance de la question du symbolique. Et donc la détache en disant comme quelque chose, la faire apparaître comme quelque chose d'un peu inaccessible, de toujours au-delà, et de séparer. On voit bien que c'est pour cela qu'il pose la question de la sublimation. La sublimation, c'est quand même... Donc ici, je vais essayer d'introduire un petit bout de ce qu'elle serait. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose dont on parle peu, actuellement, parce que, en psychanalyse, alors que c'est essentiel, je pense qu'on en parle peu, parce que s'évoiler par la question du symptôme, c'est-à-dire de ce qui vient dans le dernier enseignement de Lacan, comme étant justement ce qui attrape, le symptôme étant ce qui... c'est une alliance avec la jouissance. Et donc, je pense que c'est pour cela que la question de la sublimation est un peu oubliée dans le travail de notre champ. Enfin, je ne sais pas si Philippe serait d'accord de dire ça, mais j'ai plutôt idée de ça. Donc, ici, on est dans le séminaire 7, et donc Lacan, on voit bien qu'il fait d'abord un travail où il se sépare, où il se rend compte qu'il y a quelque chose au-delà, toujours au-delà, qui échappe, qui peut pas se symboliser, qui peut pas se dire, qui insiste, et vous allez voir que ça insiste méchamment. C'est le cas de le dire, hein, ici dans ces chapitres. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors, d'abord, pour commencer le chapitre 7, Lacan pose la question, mais quelle est la responsabilité de l'analyste? Quelle est son éthique? C'est toute la question du séminaire. Et il dit, eh bien, cette question ne va pas sans se poser la question de la sublimation. Jusque-là, Lacan en a évité le terme, dit-il, car celui-ci est problématique et pourtant essentiel pour les théoriciens de l'analyse. Donc voilà ce qu'il dit à cette époque. C'est d'ailleurs Freud en 1909 qui le fait entrer dans les concepts de la psychanalyse. Que sublimation peut dire autre chose. C'est un terme de chimie d'abord. Donc il le fait entrer Freud dans la psychanalyse sous le terme de Sublimierung en allemand. Alors si vous allez voir la définition de la sublimation dans le Petit Robert, donc c'est d'abord un terme de chimiste, hein, qui est en somme l'épuration d'un corps solide qu'on transforme en vapeur, en le chauffant. Je trouve cette définition intéressante en même temps. Donc c'est une distillation, une vaporisation, une volatilisation. En littérature, au sens figuré, la sublimation, c'est une action de purifier, de transformer en élevant. Donc en le transformer dans quelque chose de bon. C'est une exaltation, une purification. Ainsi, la sublimation des instincts, leur dérivation, vers des buts altruistes et spirituels. La sublimation, on le pense toujours dans le sens de la psychologie, on pense toujours que la sublimation, c'est quand même toujours dévier quelque chose vers quelque chose du sublime. C'est-à-dire vers ou des causes altruistes ou du spirituel. D'ailleurs, l'actualité en est plein. Hein, il y a vraiment encore beaucoup de monde qui pense, qui croit à la sublimation, dans ce sens-là. D'accord ? Mais Lacan va trouer ça. Il ne va pas en rester, justement, c'est tout le travail de ces chapitres. C'est justement de se dire que la sublimation, ça peut être ça, mais c'est bien autre chose. D'accord ? Quand je dis l'actualité, eh bien, il suffit simplement que de croire que la sexualité peut entièrement se déplacer dans le spirituel. Hein ? Bon, on sait que il y a quand même des gens extrêmement intelligents qui tiennent et qui pensent que c'est possible, dans l'idéal. Donc, en psychanalyse, en 1908, dans un premier temps, Freud avait cette idée-là de la sublimation. Pour lui, c'était un processus par lequel la pulsion sexuelle se déplace son but initial vers un autre but visant des objets socialement valorisés. Sublimer, c'est transformer les pulsions sur un plan supérieur de réalisation, de façon consciente ou non. Tant dit Lacan, vous trouvez ça à la page 105 si vous voulez suivre dans le texte, parce que je vais suivre le texte d'une manière assez resserrée. Lacan dit, lui, que la sublimation, dit Lacan, a pourtant une autre face. Et l'autre face de l'exploration que Freud fait en pionnier des racines du sentiment éthique, quand il s'impose sous sa forme d'interdiction et de conscience morale. Si il a fallu autant développer la question et mettre en place la question de la loi et de la morale, c'est bien parce qu'il y a autre chose qui se cache derrière, et même cette morale et cette éthique de la morale peut elle-même être, devenir méchante. À son fond, porte en elle-même son fond de la chose, de Dasding. Alors vous voyez que c'est autre chose quand je parle de Dasding comme cela. C'est une autre dimension. Donc l'analyse pourrait apparaître au premier abord dans son éthique la recherche d'une morale naturelle. Pour toute une phase de son action, elle peut d'ailleurs apparaître et se présenter ainsi sous son versant thérapeutique. C'est-à-dire, par exemple, ramener à un équilibre normatif avec le monde. À quoi conduirait la maturation des instincts? Exemple, la maturité du génital, le naturel, c'est ce qu'on appelle la dimension de la pastorale. Et pourtant, bien des choses sont là pour aller contre ça. C'est toute la question de Freud dans la suite de son travail, notamment dans Le malaise dans la civilisation. Le malaise dans la civilisation témoigne que quelque chose d'élabore, résiste à être résorbé dans cette dimension de la thérapeutique, de la pastorale, du normatif, etc. C'est tout le problème de l'éthique de la psychanalyse. Voilà ce à quoi la psychanalyse touche à la différence de toutes les autres thérapeutiques. Elle touche à cette dimension. Freud, d'ailleurs, nous montre et en démontre le paradoxe. L'aporie de la pratique n'est pas du tout de l'ordre des difficultés que peut présenter une nature améliorée. C'est quelque chose qui se représente avec un caractère tout particulier de méchanceté, de mauvaiseté, de mauvaise incidence. C'est tout à fait développé dans, donc, Malaise dans la civilisation, mais aussi quand il met en place la question des mécanismes d'un phénomène comme la mélancolie, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet puisse autant se laisser aller du côté de la mort? Il y a donc un paradoxe. Quel est-il, ce paradoxe? Pourquoi la conscience morale se manifeste comme exigeante lorsqu'elle est affinée, pointilleuse, qu'elle nous empêche dans nos élans et nos désirs? Cette conscience morale, on pourrait la dire cruelle, parasite. L'éthique persécute l'individu, en fait un parasite nourri des satisfactions qu'on lui accorde. C'est Lacan qui dit ça. Dans l'idée courante qu'on en a, le paradoxe de l'éthique, donc en même temps l'éthique serait du côté de la bonne intention, et en même temps le paradoxe c'est que justement elle persécute. Donc le paradoxe de l'éthique est qu'elle persécuterait beaucoup moins l'individu en fonction de ses fautes que de ses malheurs, dit Lacan. L'analyse fait un pas de plus. Au dernier terme, au fond de l'homme, on y trouve quoi? La haine de soi. Ainsi, toute la comédie antique en démontre. C'est celui qui se punit lui-même, l'homme. Ce que l'on voit surgir, c'est le fond, quelque chose qui se profile au-delà de l'exercice de l'inconscient, où se démasque Freud, le trib. Le trib différent de l'instinct. Le trib, la dérive, est proche d'Asding, la chose. Donc il faut faire entrer dans la question de l'éthique et dans la question de la sublimation la question des pulsions. Les pulsions dans leur rapport à l'objet, leur relation à l'objet. Alors, ces pulsions peuvent donner, trouver satisfaction de plus d'une manière. Notamment, elles laissent la porte ouverte à la sublimation. Il y a trois textes essentiels de Freud sur cette question. Dans les trois essais, vous trouverez des passages dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, dans Moïse et le monothéisme, et dans Malaise dans la civilisation. Dans ces textes, Freud tente de définir le champ de la sublimation, ou plutôt le champ de toute une série de difficultés. C'est donc dans le champ des pulsions donc, que se pose ce problème de la sublimation. Alors, vous pouvez lire dans Introduction à la psychanalyse, je vais lire ce petit passage que Lacan reprend parce que je le trouve vraiment important et intéressant. Alors, vous avez ça, vous pouvez reprendre ça avec moi à la page, si vous avez le livre, à la page 109, juste au début de la partie 2. Ainsi, nous devons prendre en considération que les pulsions, tribes, les émois pulsionnels sexuels, sont extraordinairement plastiques. Ils peuvent entrer en jeu les uns à la place des autres. L'un peut prendre sur soi l'intensité des autres. Quand la satisfaction des uns est refusée par la réalité, la satisfaction d'un autre peut lui offrir un complet dédommagement. Ils se comportent les uns vis-à-vis des autres comme un réseau, comme des canaux communicants remplis d'un flot. Voilà, c'est Freud hein, qui écrit là. C'est une belle citation. Et donc, attendez. Donc, nous voyons ici apparaître la métaphore des vases communicants. Très important. Comment cela peut-il faire, vases communicants et communication? Le primogénital se déplace. Se déplace-t-il via la représentation, via le signifiant? Lacan rappelle ceci. La libido humaine glisse dans le jeu des signes. Elle est subjuguée par la structure du monde des signes. Le signe, c'est ce qui vient à la place de quelque chose pour quelqu'un. Le signe, ce n'est pas le signifiant. Hein? Donc, c'est ce qui fait signe de quelque chose. Donc la libido génitale se déplace et est plastique. Mais pas tout, toute sublimation n'est pas possible chez l'individu. Quelque chose ne peut être sublimé. Il y a toujours exigence d'une part de satisfaction directe, faute de quoi s'ensuivent, vous savez bien, des dommages, des perturbations graves. Et deuxièmement, la libido a ses caractères paradoxaux et archaïques, prégénitaux, liés au mode pulsionnel des différents stades oraux, anaux et génitaux, avec ses fantaisies dans son rapport au monde. C'est-à-dire, et là c'est extrêmement important, cette note de Lacan je crois, dans le monde du corps. C'est le corps qui est impliqué. Pas seulement la pensée ou le signifiant. C'est le corps qui est impliqué. Je pense que c'est très important. Ainsi, il va s'intéresser, j'aurais beaucoup aimé, mais je n'avais pas les livres, d'aller lire un peu Luther. Luther, quand même, qui était très osé, ainsi disait-il, « Vous êtes le déchet qui tombe au monde par l'anus du diable. » Voilà, dit Lacan, le schéma essentiel, digestif, excrémentiel, que se forge une pensée qui pourra à ses dernières conséquences le mode d'exil où l'homme est par rapport à quelque bien que ce soit dans le monde. C'est pas très optimiste, donc. C'est donc à ce monde-là dont on a affaire. Et que découvre Freud avec la psychanalyse ? c'est-à-dire ce dont nous avons à faire du corps et ses zones érogènes. C'est-à-dire des points élus, des points de béance où un nombre limité de bouches à la surface du corps sont les points d'où Eros aura attiré sa source. Et ceci, rajoute Lacan, sans harmonie. Pour Freud, les pulsions et leurs sources sont justement la marque d'insertion, un point limite, un point irréductible de ces résidus, des formes archaïques de la libido. Les aspirations les plus archaïques de l'enfant ne sont jamais résolues sous un quelconque primat de la génitalité. Pas de complément, pas de fusion possible. Mais d'un autre côté, Freud montre une ouverture vers des formes substitutives au niveau du but et de l'objet. Alors il va falloir que on tente de saisir ça. C'est donc dans ces formes substitutives sublimées de l'instinct quant à l'objet que se pose la question de la sublimation. Mais que veut dire l'objet à ce niveau ? On pourrait dire, vous trouvez ça à la page 113, que dans les trois essais sur la théorie sur la sexualité, la sublimation, en somme, on pourrait penser que c'est changer d'objet. La sublimation, c'est un changement d'objet. C'est une question. La sublimation, c'est un changement d'objet qui satisfait directement. La libido sexuelle vient trouver sa satisfaction dans des objets socialement valorisés. Donc voilà, on revient de nouveau, on peut penser. Donc la question va osciller tout le temps entre comment, après tout, comme s'il y avait, une sublimation possible et en même temps une impossible. On pourrait dire, enfin, ça c'est moi qui interprète comme ça. C'est debout, ou bien on pourrait dire c'est debout d'une chaîne. Il y a possibilité de satisfaction substitutive, ou deuxièmement, il s'agit d'objets qui vont prendre une valeur socialement collective, sociale et collective. Lacan dira, nous sommes là devant un piège ou une conciliation facile entre l'individu et le collectif. Parce que la satisfaction de la libido est problématique. Tout ce qui est de l'ordre du trip, du pulsionnel, pose la question de la plasticité et aussi de ses limites. Freud ne pourra donc pas s'y tenir à son idée de « il s'agit de changer d'objet, de faire porter une satisfaction sur autre chose, etc. » et de que la libido comme ça puisse se fixer sur autre chose et laisser en plan ce qui ne serait pas socialement accepté. Freud lui-même ne peut pas s'y tenir. Jusqu'au bout, il va se poser la question. Mais il y a un point d'impossible. Et donc, du coup, il introduit la notion de réaction, de défense. Il existe des systèmes de défense antagonistes, contradictoires. Ils apparaissent comme fondamentaux dans la constitution de la sublimation d'un instinct. Les problèmes que Freud pose dans l'ordre de la sublimation viennent alors tout à fait au jour, au moment de sa seconde topique, avec son introduction au narcissisme. La sublimation, donc, est un procès qui concerne la libido d'objet. Pour Freud, pour l'homme, foncièrement, il y a conflit avec sa satisfaction. Au départ donc, il est en rapport avec Dasding. Pour le chemin de son plaisir, il doit en faire le tour. Même saint Paul, dit Lacan, le Christ vient de l'interroger. Ce qui gouverne notre plaisir ne peut être le souverain bien. Ainsi, vous trouvez dans l'Évangile, que devons-nous faire pour accéder à la vie éternelle, demande-t-on, interroge-t-on au Christ. Réponse. Que venez-vous me parler de bon? Qui sait ce qui est bon? Seul notre Père sait ce qui est bon. Faites ceci, mais n'allez pas au-delà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette phrase vient là pour faire point d'arrêt au malaise dans la civilisation, dit Lacan. Ainsi, on peut se surprendre que dans, je ne sais pas si vous connaissez, la parabole de l'attendant infidèle, c'est que la seule façon d'arriver au salut de son âme, c'est de tripoter sur les fonds dont on a la charge. Si vous lisez la parabole, c'est vrai que moi, j'ai été la relire, j'ai été assez surprise. Effectivement, je n'avais jamais vraiment remarqué parce que on se garde bien quand on lit ça à la messe, hein. Dans cette parabole et qu'on la commente, on se garde bien de toute une série de phrases qui sont dedans. Hein, et on retient en plus... Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. En somme, j'ai parfois l'impression que de cette parabole, on a retenu, que l'Église n'a retenu que cela. Alors que toute l'histoire, quand même, c'est l'histoire d'un intendant qui doit gérer l'argent de son maître. Et l'argent de son maître, il doit en rendre compte et il fait défaut. Et le maître n'est pas dupe. Le maître n'est pas dupe de ça et, après tout, admet cela. Enfin, je ne vais pas vous lire toute la parabole parce que, mais allez la lire, c'est intéressant. Vous pouvez la trouver, si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez la trouver sur Internet. Et je ne vais pas la lire parce que c'est vraiment écrit trop petit, je vais avoir du mal. Et donc voilà, la seule façon d'arriver au salut de son âme, eh bien, c'est de tripoter sur les fonds dont on a la charge. Pour Freud, le bien est foncièrement nié de l'ordre des pulsions. Il l'interroge tout spécialement avec son interrogation sur le père, par exemple. Quand même, au départ, le père, c'est le père de la horde. Et d'ailleurs, Lacan dira qu'au travers des religieux, des pères de l'Église, des philosophes, de saint Paul, si vous lisez saint Paul, si vous lisez Luther, saint Augustin, Érasme, évidemment, on pourrait aller rechercher ça, Luther, tout spécialement, a su interroger le caractère littéralement mauvais du rapport que l'homme entretient avec les hommes. C'est quand même la pollution de mort, la guerre. Le bien cache autre chose. Ainsi Luther, par exemple, une phrase de Luther que je trouve intéressante à reprendre, « La haine éternelle de Dieu contre les hommes, non seulement contre les défaillances et contre les œuvres d'une libre volonté, mais une haine qui existait même avant que le monde fût créé, dit Luther. » C'était déjà là. Cette haine, avant que le monde fût créé, est corrélative d'une certaine évidence sur la loi comme telle, forcément. C'est pour ça que la loi est forte dans son rapport à Dasding. Donc la loi est fondée elle-même sur Dasding. Et elle est fondamentale sur la question du problème du mal. Quand Freud se questionne sur le père, il est donc conduit à nous montrer en lui le tyran de la horde, celui contre lequel le crime primitif s'est dirigé et par là a introduit l'ordre, l'essence de la loi. au départ, donc c'est la haine. Alors revenons donc à la question du problème de la sublimation qui a toujours à voir avec le rapport à l'objet. Vous savez que l'objet, c'est ce qui est interchangeable. Freud le fait émerger dans un rapport narcissique et imaginaire. Il est interchangeable avec l'amour qu'a le sujet pour sa propre image, par exemple. On peut le voir aussi, il est interchangeable dans les mirages du moi. Il est investi, l'objet est toujours d'idéalisation. Mais il y a une différence, dit Lacan, entre l'objet structuré par la relation narcissique et l'objet de Dasding. C'est différent. Et c'est dans cette différence que se situe le problème de la sublimation. Donc, la question de la sublimation, ça n'a pas à voir avec déplacer une satisfaction ou quelque chose sur un objet qu'on idéalise. C'est autre chose que la question de la sublimation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un déplacement de l'idée générale qu'on se fait de la sublimation sur des causes idéalisées, par exemple. D'accord ? Et justement, Lacan dit, la sublimation, ça a à voir avec justement l'objet qui est la chose et qui n'est pas l'objet idéalisé. Il fait cette distinction, je pense que c'est vraiment... vraiment essentiel. Je crois que c'est un point dans ces deux chapitres qui est indispensable à saisir. Autrement, on ne peut pas comprendre ce que Lacan tente justement d'arracher à l'idée commune de la sublimation. Je dis comme ça, arracher à l'idée commune de la sublimation. Et d'ailleurs, si l'objet peut être idéalisé, il peut aussi être susceptible de dégradation. Quand il est investi par autre chose, par la tendance, les affects, quand il est investi d'une perte, quand il est investi de nostalgie, on voit bien que c'est une autre face, c'est l'autre pan de l'idéalisation. Au niveau de la sublimation, l'objet est inséparable d'élaboration imaginaire et très spécialement culturelle en se leurrant sur Dasding. Donc en somme, tout ce qui peut comme ça apparaître comme idéalisation, c'est le leurre. C'est pour ça que Jacques-Alain Miller a mis comme titre à ce chapitre « Les pulsions et les leurres ». C'est que l'objet idéalisé, c'est ce qui vient toujours leurrer autre chose. C'est un leurre sur Dasding. Et d'ailleurs, la société l'habille, ce Dasding, tout le temps. Les moralistes l'habillent, les artistes l'habillent, les artisans, les faiseurs de robes, dit Lacan. Et ça ne suffit pas, ça, à chercher et à comprendre ce qu'est la sublimation. On ne peut pas en comprendre comme cela, par le versant de l'idéalisation, on ne peut pas en comprendre son ressort. Et Lacan dira, il faut pouvoir l'articuler dans une fonction particulièrement très spéciale. C'est la fin de ce chapitre. Il le dit, ça serait vraiment intéressant que ça puisse être développé, et donc c'est là qu'il dit, celle de la symbolisation du fantasme, S-barré Poinçon A, où s'appuie la question de l'objet. Ces objets A, éléments imaginaires du fantasme, viennent recouvrir leur et le sujet au point même de Dasding. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il en finit par dire ça. C'est que le petit a du rapport, donc le sujet du rapport à son objet, c'est le leur de Surdasding. Et c'est là, dit Lacan, qu'il faudrait tenter de situer la question de la sublimation. Alors, on voit que ça avance, mais jamais nous n'aurons la réponse. Donc, on a la question, le fantasme, comme leur, justement, sur Dasding. Ce qui vient comme ça, imaginairement, voiler la chose, ou l'organiser, on pourrait dire, c'est mieux. Parce que la structure du fantasme, c'est une structure quand même. C'est une organisation. Toute une analyse fait le chemin d'une épure à pouvoir justement prendre la mesure de ce leurre. Je pense. Une analyse, ça fait ça. Voilà, donc ça c'est pour le chapitre 7. Il y a certainement beaucoup de choses très obscures, mais bon. voilà. Alors, le chapitre 8, je n'ai pas beaucoup développé. Donc, sur l'objet, donc il l'a intitulé « L'objet et la chose ». Alors, il revient sur la question... du rapport de Dasding au langage, pour commencer son chapitre. Il dit ceci, au-delà des représentations, donc, du langage, Dasding est donc real-ish. Alors, c'est difficile à comprendre. Il dit, Dasding, c'est un intérieur exclu à l'intérieur. Alors, on voit tout de suite qu'il faut le recours d'une certaine topologie pour comprendre ça, qui viendra beaucoup plus tard, dans l'enseignement de Lacan. Et donc, c'est un intérieur exclu à l'intérieur. Donc, en même temps, c'est que Dasding, c'est quelque chose qui est en même temps exclu, mais qui est à l'intérieur, comme exclu. Je trouve ça très joli de le lire comme ça. Et là, quand il dira, c'est le dernier réel de l'organisation psychique. Il dit cela, il ne faut pas le confondre avec l'affect, par exemple. Vous pourrez penser à la place de raconter votre histoire, dites vos affects. Et bien, on ne peut pas confondre cela, donc ce réel exclu, à l'intérieur, on ne peut pas le confondre avec l'affect. Ça, c'est bon, une remarque de Lacan que je trouve intéressante donc, dans le début de ce chapitre. Et il dit, le recours de la psychologie à l'affectivité, comme soi-disant le plus profond, quand on dit l'affectivité et l'affect, c'est ce qu'il y a de plus profond, est toujours une impasse, dit Lacan. Lacan ne nie pas pour autant l'importance des affects. Vous savez, c'est quelque chose qui va dire... j'aurais pu reprendre ce travail parce que j'avais fait tout un travail sur les affects et puis je m'en suis aperçu un peu trop tard, donc je n'ai pas pu aller relire ce travail que j'avais préparé sur l'affect. Mais sur l'affect, Lacan, il dit toujours « méfiez-vous de l'affect ». Mais en même temps, il ne nie pas, il dit faites attention et en même temps, il ne nie pas l'importance de l'affect. Et d'ailleurs, il va en consacrer tout un séminaire, le séminaire sur l'angoisse. L'angoisse étant quand même l'affect qui ne trompe pas, comme il dit. Effectivement, on pourrait dire que l'angoisse, c'est l'affect. Qui est leur, moi je dirais comme ça, qui est le leur, sans doute le plus proche de Dasding, de la chose. Il dira aussi qu'il ne faut pas confondre donc cela avec ce que l'on cherche dans cet au-delà du langage. Donc à propos de l'affect, Freud a toujours su insister sur leur caractère conventionnel, artificiel, sur le caractère non pas signifiant, mais de signal. L'affect est toujours signal de l'autre chose. D'ailleurs, on dit ça, c'est signal d'autre chose. D'autre chose qu'on ne sait pas situer, dont on ne connaît pas l'objet, par exemple dans l'angoisse. Si, alors il reprend l'exemple de la colère, ça c'est, je ne savais pas que, je me demande s'il ne le dit pas de la même façon un peu aussi ailleurs, en reprenant la citation de Peggy, à mon avis il le reprend ailleurs, hein, donc le, oui? Oui? Ah bon. Parce que je crois que c'est aussi ailleurs, je ne savais pas que c'était là, en tout cas. Hein, donc la colère étant, c'est quand les petites chevilles ne vont pas dans les petits trous. C'est qu'en somme, c'est une réaction, la colère, c'est une réaction du sujet à une déception, à l'échec d'une corrélation attendue. Là où on croyait que les choses se mettraient bien, eh bien, elles se mettent mal, et c'est ça qui met en colère. Donc c'est l'échec d'une corrélation attendue entre un ordre symbolique et la réponse du réel. Excusez-moi, mais... Alors, de nouveau, il ira derrière la confusion des affects, bien au-delà du domaine de l'affectivité, mouvante, confuse, mal repérée, il y a quelque chose de plus foncier. Donc, il y a tout le temps, dans ces chapitres, ce mouvement de dire il y a quelque chose au-delà de l'affect, au-delà de... Non, au-delà de l'affect. Das Ding, qui vient à cette place. Ce qui transforme l'amour en haine, au-delà du principe du plaisir, ce qui dans la vie peut préférer la mort. Comment comprendre ça? Ça, c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à élucider. Dans l'analyse, eh bien, c'est à ça qu'on a affaire. Et c'est tenir compte de ça qui fait l'éthique de la psychanalyse. Et d'ailleurs, Freud a affaire à ça, avec l'individu malade qu'il rencontre. Pas seulement avec l'État ou le désordre de la cité. Si vous voulez, on ne va pas seulement mal... Parce que il y a du désordre autour de nous. C'est que dans l'individu comme tel, il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est le propre du névrosé, c'est le propre du psychotique. Et Freud a affaire directement avec les puissances de la vie, pour autant qu'elle débouche sur celle de la mort. Il a affaire directement avec les puissances qui découlent de la connaissance du bien et du mal. Alors, dans ce chapitre, Lacan va rendre hommage à Mélanie Klein. Il dira sans doute que Mélanie Klein a tenté de répondre à cette question et elle s'est débrouillée avec Das Ding. L'articulation kleinienne a mis, Mélanie Klein s'est débrouillée avec cette question de Das Ding, en mettant au centre Das Ding comme étant le corps mythique de la mère. Par conséquent, pour Mélanie Klein, la sublimation serait alors un effort du sujet pour restituer ce qui est lésé du corps de la mère. C'est donc une solution imaginaire d'un besoin de substitution, de réparation par rapport au corps de la mère. Alors, la définition de Lacan, sa formule la plus générale de la sublimation, quelle est-elle ? Alors, c'est là que c'est difficile à saisir. Et donc, ce qui est central et qui termine, disons, qui termine le chapitre, moi, dans la troisième partie de ce chapitre 8. Alors, ce qui est à retenir, ce qu'il dit, la sublimation élève un objet à la dignité de la chose. Donc, la sublimation, c'est élever un objet à la dignité de Das Ding. Pour cela, pour le comprendre, on ne peut que le rattacher à la question donc des pulsions comme telles. Et c'est ce qui fait la difficulté de la théorisation. Alors, voilà comment donc Freud, lui, définit la sublimation. Il dit qu'il s'agit, dans la sublimation, d'une certaine forme de satisfaction des pulsions, dérivées, détournées de leur but. Alors, comment comprendre ça? Alors, on sait déjà que il y a des dérivations, des détournements des pulsions, que les pulsions, elles peuvent se satisfaire de toutes sortes de façons. Elles se satisfont, par exemple, quand elles se sont, le plus souvent, elles se satisfont pas directement. Hein, c'est-à-dire que, hein, vous avez envie de manger, vous mangez. Ça, c'est direct à l'objet. Mais vous savez bien que les pulsions, elles dérivent. C'est le propre, d'ailleurs, du terme pulsion. Trib, c'est égal à, c'est une dérive. Donc, elles dérivent. Elles dérivent, et donc elles dérivent de toutes sortes de façons. Elles peuvent dériver via la représentation signifiante. Elles dérivent dans les symptômes. De plus, il faut se rappeler qu'il ne faut pas confondre par rapport aux pulsions le but et l'objet de la pulsion. Ne pas confondre non plus l'idéalisation qui est l'identification à l'objet et la sublimation. Dans la sublimation, donc, la satisfaction de la pulsion est donc paradoxale, puisqu'elle se produit ailleurs que là où est son but. Toujours. C'est le propre de la sublimation. C'est que normalement, elle devrait se satisfaire de tel objet. Donc, le but, c'est la satisfaction de l'objet. Eh bien, elle dérive dans la sublimation. La satisfaction de la pulsion est donc paradoxale parce que toujours elle se produit ailleurs là où est son but. Par exemple, le but était la satisfaction sexuelle, et bien maintenant, il ne l'est plus. Donc, le but étant la satisfaction, donc dans la sublimation, ça qu'il faut saisir, c'est qu'il y a une déviation quant au but. Pas quant à l'objet, mais quant au but. C'est-à-dire là, par exemple, où c'était un but sexuel, eh bien, c'est plus un but sexuel. L'objet étant la femme, ou l'objet étant le pénis dans la masturbation, par exemple. Donc, la sublimation, dit Lacan, qui apporte au pulsionnel une satisfaction différente de son but naturel, hein, par exemple la satisfaction sexuelle, vient révéler que la pulsion a un autre rapport qu'avec son but, purement instinctif, mais avec autre chose. Et donc c'est une autre façon de dire, donc ça a un rapport, si ça a un rapport avec autre chose que son but premier, ça a rapport avec Das Ding, dira Lacan. Avec Das Ding comme tel. Alors, c'est très difficile à comprendre, hein, je vous dis pas. Et c'est comme ça que on peut comprendre cette phrase. Donc, on peut dissocier l'objet et la chose. C'est-à-dire que la satisfaction de l'objet, c'est pas la satisfaction de la chose. Et donc, du coup, on peut saisir cette phrase de Lacan qui dit « La sublimation, c'est élever un objet à la dignité de la chose. » On est obligé de les séparer. On ne peut pas faire confondre. On ne peut pas confondre l'objet et la chose. D'accord ? Dasding. Le plus souvent, on sait que bon, on voit bien le parcours de Lacan qui dit l'objet c'est toujours imaginaire, c'est un leurre qui satisfait la pulsion. Eh bien non, on peut même pas confondre l'objet, il y a derrière ça, il y a das Ding, la chose. Et puis là maintenant, il refait un autre parcours pour dire, de nouveau pour pouvoir les séparer, l'objet et la chose. Et donc pour pouvoir saisir que la sublimation, eh bien, c'est élever la question de l'objet à la dignité de la chose. Alors pour ça, il prend. Alors il va terminer donc pour faire comprendre, et ça va, je crois, venir dans les chapitres suivants, il va beaucoup développer la question de l'amour courtois. Donc dans l'amour courtois, eh bien, on voit bien que le but, c'est-à-dire que le rapport à l'objet, à la femme, est détaché de son but premier. Et donc, il donne comme exemple de sublimation l'amour courtois. C'est-à-dire, c'est aimer une femme, c'est l'amour pour une femme, sans la dimension de la sexualité. C'est-à-dire le but dans le rapport à l'objet, d'accord, qui est la femme, est désexualisé. Et donc on voit bien que c'est dit ce qu'on peut dissocier, qu'on doit bien dissocier le but et l'objet, et en même temps que le but peut dériver, comme l'objet d'ailleurs. Alors il va terminer par cet apologue de la boîte d'allumettes de Jacques Prévert, la collection de boîtes d'allumettes de Jacques Prévert, comme étant là aussi quelque chose qui révèle la chose au-delà de l'objet. Alors, c'est une satisfaction qui ne demande rien à personne, en plus. Alors, je vais vous lire simplement, parce que c'est qu'une page, et comme je n'ai pas eu le temps de terminer ça, je vais lire simplement pour terminer. C'est quoi cette collection de boîtes d'allumettes qu'il donne comme exemple, justement, pour dissocier l'objet et la chose. Et comment aussi, donc, ce qu'est la... pour dire aussi ce qu'est la sublimation, c'est-à-dire de comment on peut élever un objet à la dignité de la chose, par ce petit apologue. Alors donc, il dit avoir rendu donc visite à son ami Jacques Prévert, hein, et il se souvient tout à coup, donc en préparant ce séminaire, de sa collection de boîtes d'allumettes. Alors, c'était une collection qu'on pouvait facilement s'offrir à cette époque. C'était même, peut-être, tout ce qu'on avait à collectionner. Seulement, les boîtes d'allumettes se présentaient ainsi. Elles étaient toutes les mêmes. C'est déjà drôle pour une collection, hein ? Donc, toutes les mêmes, et disposées d'une façon extrêmement agréable, qui consistait en ce que chacune étant rapprochée de l'autre par un léger déplacement du tiroir intérieur, elles étaient un peu ouvertes, elles s'enfilaient les unes les autres, formant comme une bande cohérente, laquelle courait sur le rebord de la cheminée, on imagine, hein, montée sur la muraille, affrontait les 6 mèzes et redescendait le long d'une porte. Je ne dis pas que cela allait ainsi à l'infini, mais c'était excessivement satisfaisant du point de vue ornemental. Alors, je crois que le choc, dit-il, la nouveauté de l'effet réalisé par ce rassemblement de boîtes d'allumettes vides, l'essentiel, c'est qu'elles étaient vides. Ce point est essentiel, était de faire apparaître ceci, c'est qu'une boîte d'allumettes n'est pas du tout simplement un objet, mais qu'elle peut, sous la forme où elle était proposée dans sa multiplicité vraiment imposante, être une chose. On voit bien, c'est vraiment que l'usage de la boîte d'allumettes était complètement décalé, pas seulement par la collection, mais par la façon de les agencer. Celle-ci étant vide. Il dit là, on touche quelque chose de Dasding, de ce que c'est qu'être une chose. Donc ça avait un caractère complètement gratuit, proliférant, superfétatoire, quasi absurde de cette collection, visé à fait, en fait sa choséité de boîte d'allumettes. La chose se substituait à la boîte d'allumettes. En plus, le tiroir a bien sûr, dans le fait de l'emboîtement, une façon de montrer la copulation. Donc, elle se présentait, le tiroir libéré se présentait avec un pouvoir copulatoire que l'image dessinée par la composition prévessienne, par Prévert, était destinée à rendre sensible à nos yeux. Eh bien, ce petit apologue de la révélation de la chose, au-delà de l'objet, vous montre une des formes la plus innocente de la sublimation. C'est une satisfaction qui ne demande rien à personne. Voilà, on va rester là. Bon, c'est un peu difficile, hein. J'ai sûrement pas été spécialement clair par moment. Bon.
Mais j'ai peut-être épinglé deux, trois petites choses le temps que vous réfléchissiez à vos questions. Quand vous avez dit à un moment ce qui fait l'éthique au fond de la psychanalyse et en notant l'écart par rapport au fait qu'on ne va pas forcément mal parce qu'il y a du désordre autour de nous, ça évoquait évidemment pour moi tout le courant de ce qu'on appelle actuellement le champ biopsychosocial, qui tend à prendre en compte l'individu dans son contexte général. Oui. Et ça marque d'autant mieux le décalage, au fond...
Bien sûr, entre, toujours ce décalage.
...entre la position de l'analyste et le champ de la psychanalyse d'orientation lacanienne et d'autres courants, évidemment. Donc ça me semblait important de le souligner. Je me disais aussi, en entendant la conclusion ici de votre conférence, qu'au fond... cette question de la collection de boîtes d'allumettes de Prévert et toute la question de la sublimation interpellait évidemment tout le champ de l'art et de la création artistique. Et je pensais en même temps à Duchamp et à ses ready-made, ces objets posés et qui deviennent objets d'art ou bien au pop art. Enfin, on pourrait encore investiguer dans cette direction-là. Alors peut-être une question, mais enfin, je ne sais pas justement si je peux en faire une question. Lorsque vous dites que la pulsion a un autre rapport qu'avec un but et que ça a rapport avec Dasding comme tel, je me demandais, pour rendre ça un petit peu plus palpable, parce que lorsque c'est dit comme ça, c'est un peu, enfin, ça reste très théorique. Si, mais c'est peut-être pas possible, il y avait une petite vignette clinique qui vous viendrait à l'esprit. Mais bon, j'imagine que...
Oui, Philippe.
Une clinique peut-être, on connaît, parce que La sublimation est un terme difficile. La langue joue parfois des tours. C'est un terme malheureux parce qu'il a été quand même des tours. Il est pollué par le sublime. On entend. Il faut faire comme tu fais pour vraiment aller prendre dans sa définition, mais que tout le monde oublie. À ce terme, autre chose que sa fadeur idéaliste.
Voilà. Mais ça, c'est vraiment répété et c'est vraiment décroché dans le texte. Il lutte contre ça.
Oui. Parce que quand on comprend tout ce que tu as rappelé, qu'il ne s'agit pas de changer d'objet. Parce que quand on change d'objet comme dans Saint-Thomas, l'objet est interdit, la mer est interdite. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en prends un autre, qui va me poser beaucoup plus d'embêtement, dont là. Grâce à cette substitution, l'interdit, ben je le contourne, j'en jouis autant que je peux, et donc et tous les emballements
peuvent. Voilà.
Ça, c'est le symptôme, ça peut être une définition du mariage. Pour le dire comme ça, c'est un raccourci.
Oui, c'est gentil de me le dire, oui.
Bon, par contre, si on oppose à ça la sublimation, et bien là, l'objet, après tout, disons, grosso modo, c'est le même. Grosso modo, c'est le même. Mais j'en fais un tout autre usage.
Voilà, c'est un autre usage. Voilà.
L'exemple unique de ça, d'une certaine façon, c'est la, ça, je veux dire, l'exemple que tout le monde connaît, du moins ici, c'est la séance même, l'analyse elle-même. Après tout, mon analyste, ben, qu'est-ce que c'est? Comme la boîte d'allumettes de chaque chez vert, d'une certaine façon, il vient là, c'est en ce sens-là qu'il se ferme à l'heure, tout de même. C'est que peu ou prou, sa valeur dans ce qui se passe, c'est d'une certaine façon d'être la chose. D'en être un semblant. Un semblant le plus proche possible de la chose. C'est pour ça qu'il est difficile. C'est une position difficile à prendre. Et donc, si vous voulez, de cette façon, pour une lignée clinique élémentaire, pour rester avec la fameuse mère, eh bien, de toute façon, ce sera ma mère aussi. Sauf que je peux en faire un tout autre usage que celui que j'ai pu faire de ma mère. In illo tempore, quand j'en avais une. Que celui que je fais aujourd'hui quand j'en suis trouvé une autre, c'est-à-dire les espèces de ma femme, en plus gros. Et donc ici, qu'analyse, ce sera dans le fond l'objet elle-même. Il n'y a pas de substitution. C'est celui-là, mais ce qui est substitué, pour le terme comme ça, eh bien, c'est l'usage que j'en fais. Et quand j'en fais un autre usage, eh bien, je change moi-même.
Oui, tout à fait, c'est bien de le prendre comme ça, oui. Comme exemple, oui.
Donc, c'est une clinique abstraite. Moi, il y a un autre truc que j'ai dit. Cette question du corps. Remarquez, c'est un passage que j'ai frappé en le disant aussi, c'est que pour Freud, le monde est d'entrer dans le corps.
Voilà.
Donc le macrocosme, le microcosme,
le collectif, le
monoroscope,
le oui, et puis l'environnement.
Voilà, oui, il faut que ça.
C'est
le principal point, c'est qu'entre ce qui se passe et le macrocosme, entre ce qui m'arrive et le macrocosme, il n'y a aucun rapport. Le rapport, on peut oublier le dernier Jung. Je pense que le premier Jung est intéressant, mais quand Jung est
de les archétypes, les tout ça.
Mais vraiment frappant, parce que ça explique notamment dans ce séminaire, mais quand il y aura plus tard cette phrase, quand il s'agit de relations, tout ça c'est strictement très important. Il faut parvenir à saisir dans ce que le sujet raconte vraiment ce qu'il concerne lui au-delà de lui. Lui-même, au-delà de lui-même, c'est pas les relations. Quand on est dans les relations, dans les communications, on n'a encore nulle part. On est dans un théâtre, on se leurre et on raconte. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Jamais. Le monde est entré dans le corps et donc le sujet est là tout seul. Il faut prendre le sujet dans sa solitude et non pas dans ses relations. Les relations, c'est ce qu'il faut oublier, le réel.
Oui, sauf qu'il faut parcourir toutes les relations pour pas à pas pour, pour que au-delà puisse être un peu cerné aussi. on ne peut pas...
Dans un... C'est plus long. Il dit que l'analyse commande, on m'a rappelé ça, l'analyse commande, quand on est judicatif justement au-delà des faits, écartons les faits. Quand un sujet parvient à dire ça, et à sortir au, et à aller au-delà de ça, eh bien on est dans quelque chose aujourd'hui.
Peut-être...
Vos questions ? Oui.
Justement, vous parliez des boîtes d'allumettes. Je ne comprends pas très bien pourquoi Lacan vient avec ces histoires d'emboîtement. Parce que c'est quoi ? C'est un propos, c'est pour illustrer la sublimation, hein, qui... Je ne comprends pas très bien. Pourquoi il vient à ce moment-là, en parlant de, en plus, il y a ces emboîtements ?
Ben oui, parce que ça peut être dire voilà la copulation parfaite dans l'emboîtement de ces boîtes. Or ce qui compte, c'est l'au-delà de ça, c'est l'objet que ça que l'autre objet, l'autre chose que ça constitue comme œuvre d'art, on pourrait dire à la limite cet emboîtement. Et pour ça, pour qu'elles s'emboîtent, il faut qu'elles associent un vide avec un autre vide. Enfin, c'est ça part, là. On pourrait...
C'est métaphorique.
C'est, oui, ça, on voit que c'est une métaphore, oui, que c'est un apologue.
La sublimation, pour être une sublimation, c'est une question, c'est qu'il faut que ça touche le sexe.
Oui. Mais en même temps, c'est pas le sexe dans le sens...
Le sexe, c'est un peu tordu.
C'est... qui a perdu son usage.
Hein, c'est le sexe en tant que la bête à deux dos, en tant que l'harmonie, etc.
C'est complètement déplacé.
C'est un terme qui revient souvent. C'est, c'est ça que ça traite. Donc ça donne... Ça dit quelque chose de ça. Et la sexualité, c'est un mauvais terme, parce que la sexualité, ça implique toujours quand même une certaine rencontre, une certaine... Si c'est plutôt d'exil qu'il s'agit de la sublimation. Dans le sexe dont parle Lacan, me semble-t-il, c'est que la chose dont il parle, la chose et l'acte sexuel, et la rencontre sexuelle, c'est deux choses différentes, finalement. La jouissance et le sexe, c'est parce qu'il y a la jouissance que le sexe ne marche pas.
Enfin, moi, je trouvais que j'ai repensé aujourd'hui en écoutant les infos sur l'attribution du Goncourt à Michel Houellebecq pour son dernier livre, que je vous recommande, touche à ces questions. C'est un livre... La carte et le territoire, je trouve que vraiment ça mériterait, il faudrait que maintenant j'aille le relire, mais touche à ces questions de l'autre chose, de l'au-delà et de Dasding, c'est évident. Donc enfin, je trouve que ça mériterait de... Vraiment.
C'est pour ça d'ailleurs que Houellebecq est le seul moment qui
n'a
pas traité
de
ça.
Oui, tout à fait.
Ça sert à ça, c'est parfois utile, c'est qu'on peut se débrouiller de sa jouissance en étant quand même moins seul. Houellebecq, somme toute, considère que tout ça, c'est gentil, mais bon, il y a autre chose, et ça qui est génial, qui est mal certain.
Bien sûr, parce que ça touche une dimension insupportable en même temps. Je vous recommande ce livre. Oui.
Pourquoi est-ce que la mauvaise volonté est toujours la meilleure? Il dit à la fin dans ce que tu cites.
Je ne sais plus.
Si, il le dit à un moment. C'est une. Je m'en dis ça, j'ai pas vu la fin. Personne n'a pas fait le mouvement.
Quand même, quand on dit. Si on prend le terme couramment, quand on dit à quelqu'un tu es de mauvaise volonté, ou on est de mauvaise volonté. Quand même, hein. C'est parce qu'il y en a une autre meilleure par derrière, hein, si elle est mauvaise. Et donc, si la mauvaise apparaît, il y a la meilleure, il y a l'autre qui apparaît. Mais c'est toujours le... Oui.
Quand tu parlais de la réaction thérapeutique de
guerre. Oui, je ne sais plus.
C'est au niveau d'abord de la mauvaise volonté, voire de la préférence pour la mauvaise.
Voilà.
Au niveau de la réaction thérapeutique négative, que Freud, au terme de sa pensée, retrouve du champ d'Asding et il dessine le plan.
Ben oui. Et alors, tu suis toujours, voilà le paradoxe de l'éthique. Toujours. C'est le. Dans le. Ça vient plusieurs fois dans le texte. Et donc, ça, c'est le paradoxe. Ce renversement comme ça est toujours le paradoxe de l'éthique.
Une vérité dans la mauvaise volonté.
Voilà.
La
bah oui.
La mauvaise volonté est plus vraie que la bonne.
Mm-hmm.
La colère
est
plus vraie
qu'autre
chose.
Oui.
Il y a là-bas. Il donne même un conseil, enfin, je ne parle pas ensemble, il donne un conseil en passant. Méfiez-vous des gens trop gentils, par exemple.
Alors peut-être vous allez trouver que Lacan est bien pessimiste. Ben, moi, je ne trouve pas du tout, au contraire, je trouve ça. Je trouve que c'est encourageant de se dire que justement, comment je vais dire ? Qu'on ne se leurre pas dans le leurre. Qu'on se leurre toujours, mais qu'on ne se leurre pas de se leurrer. Parce que c'est ça qui est... On peut se poser aussi la question, ça a été posé pendant tout un temps sur la question de la fin de l'analyse, est-ce une sublimation ? Mais la fin de l'analyse, ce n'est pas la voie de la sublimation. Je ne pense pas, il faudrait travailler la question, mais c'est la voie du symptôme, ce n'est pas la voie de la sublimation. Il l'utilise plus, mais il ne va plus l'utiliser là quand après.
Néanmoins, il y a quand même. Comment ?
Je crois qu'il doit.
Traiter l'objet autrement, ça on sent que cette formulation, hein, ce changement de but, ça on sent que ça c'est quand même la pulsion qui change de but. Là on est quand même dans le.
Oui, ça existe.
Ça on est dans quelque chose.
Bon.
Eh bien, voilà.
Alors, on pourrait dire entre nous deux,
oui. Oui.
Que quelque chose dans l'analyse, parce que Lacan était tout, sauf quelqu'un triste, sauf quelqu'un. Vous pouvez dire qu'il n'est pas de bonnes intentions. Hein, ce n'est pas quelqu'un commode, c'était quelqu'un qui est joyeux. Hein. Alors, effectivement, ce qu'il raconte ici, hein, au fond, il veut prouver que dans le fond, que la. L'homme a un goût de la mort, hein, il prend.
Mais oui, mais.
Il évoque la bombe atomique, qui à cette époque, on en parlait plus que maintenant. Hein, que là, évidemment, quand, à la fin du monde, paraissait beaucoup plus proche qu'elle venait maintenant, c'est de la bombe atomique, c'est le pôle Nord qui font en été, mais c'est l'écologie, mais il y a toujours un.
Mais
qui dégage un espace de gaieté. Comment on peut dire ça ?
Eh bien, parce qu'il ne s'identifie pas à l'Asding, à la chose.
Voilà.
Qui serait une position mélancolique. Parce que la mélancolie, c'est quand même ça.
Voilà.
Enfin, moi, je pense que justement, ce qu'apporte une analyse, c'est de ne pas s'y identifier.
Voilà. Le repérage du pire permet...
Alors, c'est quoi ne pas s'identifier ? Alors, c'est quoi ? C'est un rapport à la chose, mais qui n'est pas un rapport d'identification.
Est-ce qu'on pourrait dire un rapport qui permet une marge de choix du sujet ?
Ben c'est savoir être dupe sans l'être du truc, plutôt. En même temps... Oui. Est-ce possible? C'est un pas qu'on peut faire toujours, qui peut se faire en tout cas.
Il parle des artistes et
oui.
Je pense aussi que notamment il parle de Freud, des artistes, certains qui c'est un peu qui ont fait une forme d'harmonie avec le monde, je pense. Des poètes comme Rimbaud, Baudelaire, voilà. Ici de dire le monde avec humain avec leur corps.
Oui.
Penser dire la boule.
Toujours, Romain.
Rimbaud va quitter la poésie, il voulait en faire autre chose. Je pense qu'il est possible de ne pas arriver à s'identifier à cette chose. On est toujours à la recherche de cette chose.
Mais c'est pas possible. Si on s'identifie vraiment, bah on passe par la fenêtre. Forcément. On rejoint la mort. Et donc il y a toujours. Toujours cette distance qu'il y a entre la vie et la mort. Ce décalage possible. Hein. Ben, je dirais ça. En même temps, c'est un leurre. En même temps, c'est avec ça qu'on vit. Enfin, qu'on se maintient en vie. C'est avec le leurre, avec le fantasme, avec le leurre. Bon. Disons qu'une analyse fait en sorte qu'on en est un peu moins dupe. Tout en restant dupe, forcément. Bon. Mais c'est optimiste, hein, comme... c'est pas...
Merci beaucoup à Véronique Mariage pour sa conférence et nous nous retrouvons dans 15 jours. Voilà. Je vous rappelle aussi que le 16 novembre a lieu le colloque variété clinique de la psychose ici à l'université. Voilà, merci.